Quelle grâce de pouvoir admirer ces arbres, ces plantes, Seigneur, qui bourgeonnent, qui vont bientôt éclore. Et lorsque nous avons lu ce texte ce matin, nous avons lu que nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et que tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et Seigneur, par cette image de la nature qui sort de l'hiver, qui nous rappelle un peu la mort, qui sort de l'hiver et qui vient maintenant à la vie par ces fleurs qui vont bientôt sortir, ces feuilles qui vont bientôt verdir, nous nous rappelons de ton œuvre éternelle, œuvre de salut, œuvre de vie. Tu es notre Rédempteur, Seigneur, et nous voulons ce matin t'en rendre grâce, te louer, te bénir pour le salut que tu nous as accordé, immérité, en Jésus-Christ. Seigneur, nous nous souvenons que lorsque Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés, Seigneur, le Saint des Saints a été ouvert. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas, ce qui signifie que nous avons aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, un libre accès au sanctuaire. Et c'est donc une joie pour nous d'être ce matin dans ta présence, de pouvoir venir vers toi, Éternel, d'être accueilli par toi, non plus en tant que juge, mais en tant que Père. C'est une réelle grâce de pouvoir commencer la semaine avec toi. Seigneur, les premiers instants de ces jours qui commencent aujourd'hui, de ces 7 jours, c'est avec toi que nous les passons. Et nous te demandons donc la grâce de ta présence, de ta bénédiction, que ton esprit soit véritablement libre d'agir dans nos cœurs, qu'il y ait une réelle joie dans nos âmes éternelles parce que nous te connaissons, surtout parce que tu nous as connus le premier. Bénis donc ces instants, nous t'en supplions, et que tout le reste de cette semaine en soit ensuite sanctifié, que nous puissions la vivre dès cet après-midi et les jours qui viendront, Seigneur, à ta gloire. Ô Seigneur, bénis ces moments pour nous ici ce matin, mais aussi pour tous nos frères et sœurs qui se réunissent dans ce monde, qui partagent la même foi avec qui nous sommes en communion. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à lire maintenant le texte de la prédication de ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther, au chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 20. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vasti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté, que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi règnera à la place de Vasti. Cette proposition plut au roi, et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjaminite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Yéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus, en effet, ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hégaï. On amena ainsi Esther dans le palais royal aux soins de Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement les cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner, et il la fit passer avec ses jeunes servantes à la meilleure place du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de les faire connaître. Chaque jour, Mardoché arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus, arrivait au bout de 12 mois qui lui étaient assignés, suivant le protocole des femmes, car la période de leurs apprêts était ainsi remplie. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femmes. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem au palais royal. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem aux soins de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait plus chez le roi, à moins que le roi n'ait envie d'elle et ne l'appelle par son nom. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'emmener chez le roi Assuérus au palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alors, il mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Il ordonna une trêve dans les provinces et fit des largesses avec une libéralité royale. Quand on assembla les vierges pour la seconde fois, Mardoché avait une place à la conciergerie royale. Esther ne faisait toujours pas connaître son origine, ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardoché. Esther exécutait les ordres de Mardoché comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Voici donc le texte de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu, et que le Seigneur vraiment bénisse sa parole qui sera prêchée dans quelques instants. Je vous rappelle donc que nous avons commencé la semaine passée une série de prédications sur ce livre d'Esther. Et dans un premier temps, je vous ai donné quelques éléments vous permettant de mieux appréhender ce livre. Ces quelques éléments vous ont permis de vous souvenir du contexte, peut-être d'apprendre certaines choses aussi, historiques, peut-être géographiques, quant à cet ouvrage, et intéressant pour comprendre ce livre. Donc. Et nous avons ensuite vu ensemble que le royaume d'Assuérus, qui pouvait paraître au premier abord impressionnant et séduisant, était en réalité le monde des faux-semblants, de la perversion et de l'injustice. Nous avons aussi vu, dans un deuxième temps, que ce royaume était lézardé jusqu'aux plus hauts échelons de la hiérarchie, en constatant tout d'abord le caractère indécis, autoritaire, versatile et emporté du roi, mais aussi l'insoumission caractérisée de Vasti, et puis l'hypocrisie des conseillers, qui eut finalement pour résultat que Vasti fut répudié. Et le chapitre 2 que nous commençons ce matin se déroule plusieurs années plus tard, c'est-à-dire plus précisément 3 ans plus tard, puisque entre-temps, et comme je vous l'avais également dit dimanche passé, entre-temps, eh bien, il y a eu cette terrible guerre qui a opposé d'un côté les Perses aux Grecs. Et cette guerre entre les Perses et les Grecs, n'oublions pas que cette guerre avait conduit Xerxès à lever une armée de 2 600 000 hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait 2 600 000 hommes sur le terrain, mais ça signifie que 2 600 000 hommes à peu près avaient pris part d'une façon ou d'une autre à cette opposition entre les Perses et les Grecs. Mais cette guerre, plutôt que d'être un succès pour le roi Xerxès, fut au contraire une terrible déconvenue, puisqu'il y eut au début, il a eu quelques petites victoires, mais ensuite, il a eu 2 grosses défaites, celle de Salamine tout d'abord, et puis ensuite celle des Thermopyles. Et au début de ce chapitre 2, 3 ans plus tard, certainement exténué par cette guerre, et en tout cas très découragé par ces 2 défaites subies lors de cette malheureuse expédition, nous retrouvons le roi Assuérus. Le roi Assuérus qui, comme je le disais, certainement découragé, aspire à ce moment-là de l'accompagner, à une compagnie féminine. Et il se souvient, dès lors, qu'il a répudié, suite à cette fastueuse, cette grande fête, il a répudié, à cause de son impulsivité, de l'alcool qu'il avait bu, de son influençabilité, il a répudié Vasti. Il se souvient d'elle, il regrette. Et c'est ainsi que ses conseillers, ne pouvant rappeler la reine, puisqu'elle avait été répudiée selon la loi des Mèdes et des Perses, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, les conseillers, donc, désirant apaiser la mauvaise humeur du roi et ses besoins, eh bien, suggèrent que les plus belles jeunes filles du royaume soient réunies afin que le roi en choisisse une pour épouse. Alors, selon l'historien Hérodote, qui a beaucoup écrit sur Xerxès, il semblerait que ce seront dès lors 400 jeunes filles qui seront choisies dans tout l'Empire perse, qui, je vous le rappelle, s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. 400 jeunes femmes, peut-être plus, en tout cas des centaines, qui seront arrachées à leur famille pour le bon plaisir du roi. Et malheureusement, ces conseillers, lorsqu'ils prennent cette décision, évidemment ne se préoccupent pas un instant des lourdes conséquences humaines d'un tel choix. Lourdes conséquences humaines, non seulement pour ces jeunes femmes qui seront arrachées aux leurs, mais aussi pour leur famille, voire pour leurs fiancés, car certaines étaient très certainement déjà fiancées, mais elles pouvaient être prises parce qu'elles n'étaient pas encore mariées. Lourdes conséquences, pourquoi ? Parce que selon l'usage de l'époque, eh bien, il faut savoir qu'une fois que la reine était choisie parmi les centaines de prétendantes, eh bien, aucune des prétendantes ne pouvait dès lors rentrer chez elle en se disant « ben voilà, c'est pas moi, tant mieux ». Je retourne à la maison, puisqu'elles étaient placées, nous le voyons au chapitre 2, après être passées chez le roi, dans la maison des concubines du roi, ce qui signifie qu'elles y restaient sûrement toute leur vie, peut-être sans plus jamais voir le roi ni d'homme, elles y restaient cloîtrées jusqu'à la fin de leur jour. Remarquez, dans ce chapitre 2, au verset 3, les critères qui présidaient au choix de ces jeunes femmes. Il fallait qu'elles soient belles et vierges. Et cette information nous révèle une fois encore, même si nous comprenons que le roi Assuérus pouvait aimer la beauté naturelle des femmes, ce verset nous révèle une fois encore que cet homme manque de sagesse. Pourquoi ? Parce que son choix se limite tout simplement à la beauté des femmes. Alors, la virginité, on peut le comprendre, mais son choix se limite uniquement à cette beauté. Or, comme nous le dit l'Écriture, la grâce est vaine et la beauté trompeuse. Comme nous l'avons vu dans la première épître de Pierre, la beauté intérieure pour une femme est beaucoup plus désirable que la beauté extérieure. L'apôtre écrit ceci, je vous le rappelle, à propos des femmes. Il parle de cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ce qui ressort pourtant de façon assez magistrale dans ce chapitre 2, eh bien, ce sont deux personnages. C'est Mardochée et Esther. Mardochée et Esther rentrent en scène au chapitre 2. Au chapitre 1, c'était le roi Assuérus, c'était la reine Vasti, mais maintenant c'est Mardochée et Esther. Et nous comprenons dès ce chapitre 2 que ces deux personnages ont un rôle clé dans ce livre. Et ce que l'on remarque d'emblée en comparant ces chapitres 1 et 2, c'est qu'il y a une réelle différence entre Assuérus et Vasti d'un côté, puis Mardochée et Esther de l'autre. La qualité de leur relation est différente. Alors, dans un cas, bien entendu, Assuérus est marié avec Vasti, dans l'autre cas, Mardochée est le cousin d'Esther. Mais nous voyons néanmoins, entre ces deux couples, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y a une opposition flagrante. Prenons Mardochée. Mardochée n'est pas un homme qui considère les femmes comme de simples objets. Ce n'est pas un homme qui ne les admire que pour leur corps, étant prêt ensuite à les humilier et à les répudier pour la moindre insoumission. Bien au contraire, il prend un grand soin d'Esther, la conseillant, la protégeant du début jusqu'à la fin. Esther, quant à elle, et à contrario de Vasti, témoigne d'un grand respect envers son oncle et d'une grande soumission. Et nous voyons, en lisant ce texte, et nous allons en parler tout à l'heure, que coupée de tout contact avec lui, elle continue toutefois d'obéir au conseil de son cousin. Mais le contraste entre ces deux couples ne se limite pas à ces deux aspects. Nous voyons aussi que Assuérus et toute sa cour ne sont préoccupés que par les honneurs et le pouvoir. C'est ce que nous avons considéré la semaine passée, entre autres, selon le verset 4 du chapitre 1, qui nous montrait que la fête glorieuse qui était organisée était pour montrer la richesse du règne et la rare magnificence de la grandeur de Xerxès. Nous avons vu aussi que Vasti était une reine autoritaire et très orgueilleuse. Nous avons vu également ses conseillers qui voulaient continuer d'être les maîtres chez eux et de pouvoir continuer d'être les pater familias imposant leur autorité aux leurs et particulièrement à leurs épouses. Qu'en est-il d'Esther et de Mardochée ? Eh bien, nous voyons des gens qui préfèrent l'incognito, qui se réjouissent dans l'humilité et dans la simplicité. C'est vrai qu'ils vont être appelés au devant de la scène par des circonstances voulues par Dieu. Mais même lorsqu'ils seront appelés à agir sur le devant et à prendre des responsabilités de reine puis de vizir, ils le feront sans orgueil et sans prétention. Alors je vous propose ce matin que nous considérions donc ensemble ces deux personnages clés de cette histoire, Mardoché et Esther. Après quoi, nous dirons quelques mots sur la providence de Dieu. Et le titre de la prédication est celui-ci, « Un homme et une femme selon Dieu ». J'aurai trois points. Le premier, Mardoché, un homme selon Dieu. Le deuxième, Esther, une femme selon Dieu. Et le troisième, l'œuvre providentielle de Dieu. Mardoché, un homme selon Dieu. Comme vous l'avez lu, Mardoché, tout comme Esther, dans ce chapitre 2, est introduit avec un grand soin par l'auteur. C'est ainsi que sa présentation est beaucoup plus détaillée que celle du roi Assuérus. À propos du roi Assuérus, on apprend qu'il règne, mais on n'en sait pas plus sur lui. On ne sait pas qui était son père, est-ce que c'était le souverain précédent, etc. Par contre, concernant Mardoché, l'auteur nous donne le nom de trois de ses aïeux, et ce fait-là a son importance. Parce que nous lisons, entre autres, que Mardoché était un descendant de Kish, au verset 5. Kish était l'aïeul de Mardoché. Et Kish était en même temps l'aïeul de Mardoché, mais était surtout le père du roi Saül. Alors cela a son importance, pourquoi ? Parce qu'au chapitre 3, nous allons apprendre que Aman, le vizir du roi, qui va être mis en place, premier ministre du roi, lui est amalécite. Ce qui signifie qu'il descend du roi Agag, qui était le chef des amalécites dont le peuple fut en partie exterminé par Saül. Alors est-ce que nous devons y voir un désir de vengeance de la part d'Aman lorsqu'il demandera que tous les juifs soient exterminés? C'est possible. Mais en tout cas, cette précision a son importance. Ensuite, dans la lecture de ce chapitre 2, et à propos de Mardoché, nous découvrons au verset 11 et 21 que cet homme avait une responsabilité au sein du palais du roi. Alors là, on ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Est-ce qu'il était officier du roi? Est-ce qu'il était eunuque du roi? On ne sait pas précisément, mais en tout cas, il pouvait venir aller dans le palais, même jusqu'aux portes du harem. Mais ce qui impressionne le plus, lorsque nous lisons ce chapitre 2, à propos de Mardoché, c'est la noblesse de caractère de cet homme. Les grandes qualités humaines qu'il démontre. Et cette noblesse de caractère, ces qualités, s'expriment entre autres, vous l'avez bien compris, vis-à-vis de sa nièce, Esther. Nous découvrons à son égard un homme aimant, fidèle, un homme sage et un homme courageux. Un homme aimant tout d'abord. Prenons ces quatre éléments les uns après les autres. Aimant. Cet amour de Mardoché vis-à-vis d'Esther nous apparaît évident lorsque nous lisons que dès la mort de ses parents, au verset 7, eh bien Mardoché adopta Esther. Nous ne savons pas quel âge elle avait, mais elle devait être assez jeune pour être adoptée. D'emblée, tout de suite après la mort de son oncle, Mardoché adopte cette jeune femme, ou cette jeune fille, peut-être cette petite fille. Mais nous voyons surtout cet amour de Mardoché à l'égard d'Esther se vivre concrètement tout au long de ce chapitre. Lorsque nous constatons quoi ? Nous constatons combien il s'inquiète au verset 10 et 11 de l'état d'Esther. Il prend régulièrement des nouvelles pour savoir comment elle va, pour savoir comment on prend soin d'elle au sein de la maison des femmes. Un homme fidèle. Deuxièmement. Et c'est certainement cette qualité qui ressort le plus de ce chapitre. Tout d'abord, une réelle fidélité à l'égard de son oncle, lorsqu'il prend la fille de son oncle sous son aile pour l'adopter, et ensuite, cette fidélité, vous l'avez compris en parlant de l'amour, cette fidélité qui va se vivre jour après jour de la part de Mardoché, puisqu'il va s'installer près du harem et jour après jour prendre des nouvelles, s'inquiéter d'elle. Sagesse également. Sagesse, lorsqu'il donne comme conseil à sa cousine de taire son origine juive au sein du palais. Et en fait, en demandant à Esther de taire son origine, il ne fait ni plus ni moins que mettre en pratique un conseil ou une injonction du Seigneur à l'intention de ses enfants qui vivront dans un monde hostile. L'injonction suivante. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le mot loup qui est utilisé dans ce verset par le Seigneur fait référence au monde impitoyable et opposé à la foi, monde dans lequel beaucoup de chrétiens, de tous les temps donc, devront vivre et témoigner. Et la vulnérabilité des chrétiens, de leur position en tant que croyants, exige ou exigera de leur part une grande sagesse, de la prudence, mais en même temps sans tomber dans une sorte de compromis ou sans tomber dans le compromis. Il s'agit en fait, pour les croyants, selon cette injonction du Seigneur, croyants vivant dans un milieu hostile à leur foi, de trouver une position équilibrée leur permettant à la fois de survivre, tout en demeurant des lumières au sein des ténèbres, et à rester fidèles à leur Dieu, au commandement de leur Dieu. Donc, position d'équilibre. Et c'est exactement ce à quoi s'emploie Mardochée lorsqu'il conseille à Esther « Tais ta judaïté pour l'instant. Ne dis rien. Sois prudent. » Mais nous allons voir par la suite que, tant l'un que l'autre, quand ils seront obligés de le faire, eh bien, ils prendront avec courage position. Au chapitre 3, Mardochée ne pliera pas le genou devant Haman. Et plus tard, au chapitre 5 et 6, dans l'action centrale donc, de ce livre d'Esther, nous verrons Esther prendre position et dire « Voilà, je suis juive et Haman veut détruire notre peuple. » Donc, sagesse, mais pas compromis. Sagesse, mais tout en demeurant une lumière au sein des ténèbres. Et c'est ce qui ressort particulièrement de ce livre et de ce chapitre 2. Et enfin, quatrième qualité qui caractérise la noblesse de caractère de Mardochée, son courage. Très certainement qu'il y avait un prix à payer de la part de Mardochée de se présenter aussi souvent aux portes de la maison des femmes. Je vous rappelle, comme nous l'avons vu la semaine passée, que personne ne pouvait, à part ceux qui étaient appelés, les eunuques qui en avaient la charge, les jeunes femmes qui étaient au service des prétendantes, mais personne ne pouvait approcher du harem. Et il est certain, ou en tout cas on peut supposer, que Mardochée courait un risque réel pour sa vie de s'enquérir régulièrement de l'état d'Esther, de comment elle se portait, de comment on la traitait. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous découvrons dans ce texte que par son amour indéfectible à l'égard d'Esther, par sa fidélité, par la sagesse de ses conseils et par son courage, Mardochée est une excellente figure de la vigilance et des soins qui devraient caractériser les hommes. Lesquels ? Ceux qui sont investis d'une autorité particulière, les maris, les pères, les anciens, également dans l'Église. Une image qui devrait, mes frères, nous caractériser. Parce que Dieu a placé sous notre responsabilité des âmes. Mardochée et ses qualités devraient nous caractériser à une époque où justement les hommes sont plutôt caractérisés, pour reprendre ce terme, par la démission vis-à-vis de leurs responsabilités, ou par un certain machisme, peut-être comme Assuérus. Ainsi avons-nous cette responsabilité, lorsque Dieu nous permet de voir par la lumière et le discernement qu'il nous accorde, avons-nous la responsabilité, lorsque nous constatons la corruption du siècle, les pièges invisibles de l'ennemi, de nous engager concrètement à veiller sur ceux que Dieu place sous notre garde, à veiller sur eux et à nous sacrifier pour eux. Alors bien sûr, toute proportion gardée, je ne m'imagine pas, lorsque Alizée sera un peu plus grande, aller aux portes de l'appartement pour regarder comment son mari la traite. Toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est néanmoins notre responsabilité de savoir par de sages conseils, par une présence discrète mais réelle, par la fidélité dans la prière, mais aussi par beaucoup de courage. C'est par ces conseils, cette présence, cette prière et ce courage qu'à l'image du cousin d'Esther, nous nous devons, chers frères, de protéger, de défendre et de préserver les nôtres de tous les périls qui les entourent. C'est notre devoir d'homme. C'est celui auquel Dieu nous appelle. Même si cela doit nous en coûter, même si peut-être cela devait coûter notre réputation, voire même notre vie. Alors que Mardochée soit pour nous, donc, chers frères, et comme je le disais, toute proportion gardée, bien sûr, un exemple d'amour, un exemple de fidélité, un exemple de sagesse, un exemple de soins bienveillants, un exemple de courage dans le service pour nos épouses, pour nos enfants et pour nos anciens à l'égard de notre assemblée. Esther, une femme selon Dieu. Deuxième point. Alors nous apprenons au verset 7 de ce chapitre 2 que le prénom juif d'Esther était celui d'Adassa. C'est son prénom perse donc qui était celui d'Esther et qui signifie étoile en persan, ou peut-être qu'il lui avait été donné en vertu de sa grande beauté en faisant référence à la déesse babylonienne de l'amour qui s'appelait Ishtar. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'on lui ait donné ainsi un prénom perse, mais nous devons nous rappeler que c'était la coutume de l'époque. Rappelons-nous entre autres que Daniel fut appelé Belshazzar, que ses trois compagnons, Michaël, Anania et Azaria, furent appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, habitude à l'époque de faire comme cela. Comme nous le découvrons au verset 7, vous le savez, je le répète, eh bien, Esther était orpheline de père et de mère et son cousin s'occupait d'elle. Et nous découvrons encore une fois dans ce livre et dans ce chapitre beaucoup de qualités humaines, morales et spirituelles chez Esther. Et ce matin, il me semble qu'il y en a deux qui ressortent particulièrement, peut-être d'autres encore, mais deux qui ressortent particulièrement dans ce texte. Son humilité, tout d'abord, et sa simplicité, ensuite. Puis, je me permettrai, après avoir parlé de l'humilité, de la simplicité d'Esther, de considérer avec vous les versets 12 à 14 qui vont nous parler de toutes les préparations des prétendantes. Il y a une leçon à tirer très certainement intéressante. Et puis nous parlerons dans le troisième point de la beauté providentielle d'Esther. Mais l'humilité d'Esther tout d'abord. Cette humilité ressort de façon évidente par son obéissance aux sages conseils qui sont prodigués par son cousin Mardoché. Au verset 10 et 20. Et au verset 20, à la fin du verset 20, l'auteur écrit même qu'Esther exécutait les ordres de Mardoché comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Cette soumission à son cousin, comme au premier jour, pourrait-on dire, alors qu'elle soit devenue reine de Perse, peut paraître étonnante. Parce que plus d'une femme arrivée à cet échelon de la hiérarchie sociale, plus d'une femme aurait fait preuve, pas toutes peut-être, mais plus d'une aurait fait preuve à ce moment-là, d'arrogance et de suffisance en prenant ses distances avec ceux qu'elle fréquentait autrefois quand elle faisait partie du peuple. Imaginant à tort, et ça arrive chez certains, qu'avec cette nouvelle ascension sociale et ce nouveau statut, elle avait reçu en supplément toute la sagesse qui va avec le statut de reine ou le titre de reine. Mais comme nous le remarquons, il n'en est rien pour Esther. Il n'en est rien. Pourquoi ? Parce qu'elle est arrivée à ce statut de reine, très certainement contre son gré. Ce n'est pas elle qui s'est présentée, on est venu la chercher. Mais soumise à Dieu, on ne la voit jamais rouspéter, branchonner contre Dieu. Bien au contraire. Mais elle est arrivée à ce statut, à ce titre de reine, à cette place de reine. Mais elle ressent plus que jamais, certainement, sa faiblesse à ce poste-là et le grand besoin qui est le sien des conseils avisés, des conseils sages et pieux de son cousin. Quelle est la réaction d'Esther ? Eh bien, cette femme, plutôt que de s'enorgueillir, reste petite à ses propres yeux et se tient très éloignée de cet orgueil ordinaire qui caractérise beaucoup de grands ou de ceux qui s'estiment grands et qui dédaignent dès lors, comme je vous le disais tout à l'heure, les conseils ordinaires des plus petits ou les conseils des plus petits qui regardent leur élévation comme inaccessible aux avis de ceux qui sont sages. Il y a une leçon à retirer de cette humilité d'Esther, que cette attitude humble, que cette attitude soumise de la part de cette reine perse, chers amis, soit pour nous aussi un encouragement à l'humilité. Un encouragement à la recherche de conseils avisés pour tous les domaines de notre vie, afin que, comme le dit l'apôtre, soit que nous mangions, soit que nous buvions, et quoi que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. L'auteur du livre des Proverbes écrit ceci par deux fois. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alors encore faut-il bien les choisir. Peut-être pas comme le roi Roboam, qui, au moment où il arriva au pouvoir après le roi Salomon, fit appel au conseil des anciens, puis des plus jeunes, et finalement, il retint le conseil des plus jeunes, qui manquaient d'expérience, de sagesse, de bon sens et de discernement. Le bilan fut la division du royaume en deux parties, Israël d'un côté, Juda de l'autre. Mais que Dieu nous accorde plutôt de savoir nous entourer de conseillers et de faire appel. Oh, combien j'aimerais appuyer là-dessus, chers frères et sœurs, lorsque le besoin est là, à faire appel à des aînés, à des frères et sœurs mûrs dans la foi, à des piliers dans la prière, à des frères et sœurs bienveillants, fidèles et utiles par leurs conseils avisés, comme le fut Mardochée. Ne restons pas seuls pour prendre les décisions que nous devons prendre, et peut-être parfois des décisions difficiles. Sachons nous entourer, il n'y a pas une nécessité de prendre une trentaine de personnes, mais sachons nous entourer des conseils avisés de ceux que Dieu a mis à nos côtés. Et c'est dans ce sens-là que l'Église est vraiment importante. C'est dans ce sens-là qu'une Église doit avoir des plus jeunes et des aînés, et non pas une équipe de jeunes pour faire une Église de jeunes ou une équipe d'aînés pour faire une Église d'aînés. C'est dans ce sens-là que Dieu nous a placés ensemble, pour que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres, prendre soin les uns des autres, pour que ceux qui nous ont précédés dans la course chrétienne soient ses conseillers, ces hommes et femmes de prière qui nous enseignent, qui nous forment, qui prient pour nous. Ne restons pas seuls avec cet esprit peut-être orgueilleux ou cette fausse humilité qui aurait pu caractériser une reine qui se serait dit « Oh, mais maintenant que je suis arrivé au statut de reine, je n'ai plus rien à apprendre. » Petite anecdote très rapide, mais sans vouloir trop allonger là-dessus. J'ai travaillé dans une entreprise dans laquelle celui qui devint le directeur de cette entreprise, c'est une entreprise chrétienne, n'avait aucune connaissance du travail qui était le sien. Mais dès lors qu'il arriva au poste de direction, on avait l'impression qu'il savait tout, tout de suite. Quel orgueil, quelle prétention, que celle-ci ne nous caractérise pas. Simplicité, je disais ensuite. Humilité d'un côté, simplicité. Nous la constatons, cette simplicité d'Esther, lorsqu'elle doit se rendre chez le roi. Que fait-elle? Elle pourrait tout à fait réclamer des robes, des bijoux, des cosmétiques, des parfums, etc., pour séduire le roi, pour jouir de tous ses biens, peut-être pour briller dans la maison des concubines, lorsqu'elle rentrera le matin dans cette maison des concubines, après avoir passé la nuit avec le roi. Et pourtant, elle ne demande rien de plus que ce que Hegaï, le chef des eunuques, lui donne. Esther ne s'appuie sur rien d'autre que sur ce qu'elle est, par la grâce de Dieu. Elle ne s'appuie sur rien d'autre que sur le secours providentiel de Dieu qui s'occupe si bien d'elle depuis qu'elle est enfant. Elle se présente donc devant le roi dans la simplicité de sa personne, ne comptant sur rien d'autre que sur le secours divin. Elle sait que son avenir n'est pas dans sa beauté, que son avenir n'est pas dans les robes, les bijoux, les parfums, mais que son avenir est dans la main de Dieu qui, s'il veut la voir sur le trône de Perse, la mettra sur le trône de Perse, même s'il y a 399 autres prétendantes, ou 500 ou 600, tout aussi belles les unes que les autres. Sa confiance et son identité ne sont pas dépendantes de ce qu'elle possède, ne sont pas dépendantes de sa beauté ou des regards des autres. Elle se trouve en Dieu et en Dieu seul. Alors que Dieu nous accorde à nous aussi cette même simplicité, cette confiance en lui, cette certitude qu'il s'occupe de nous quoi qu'il nous arrive. Que notre sécurité ne soit pas dans notre intelligence, dans nos diplômes, dans nos richesses, comptes en banque, dans tous les artifices que le monde utilise pour que nous puissions briller et paraître aux yeux des autres, mais en Dieu. Au simple fait d'être son enfant et de trouver en lui, quoi qu'il nous arrive, que nous soyons appelés à la plus haute responsabilité ou bien que nous perdions peut-être notre travail ou bien des choses qui nous sont chères, que nous trouvions en lui, quoi qu'il nous arrive, notre bonheur éternel. Alors c'est vrai qu'il peut paraître parfois que la direction de notre vie est entre d'autres mains qu'entre les nôtres. Pour Esther, la direction de sa vie était entre les mains du roi. Mais cela n'était qu'illusion, parce que la direction de la vie d'Esther était entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et la vôtre est entre ses mains, et entre ses mains seules. Alors que cette assurance nous libère tous de l'anxiété, et même du piège de cette compétition égoïste qui existe aujourd'hui dans ce monde. Si nous sommes sages, nous voulons que ce que Dieu veut pour nous, ni plus, ni moins. J'aimerais dire maintenant quelques mots sur la préparation des femmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans les versets 12 à 14, il y a cette information assez intéressante qui nous dit comment les femmes, les prétendantes, étaient pendant une année entretenues, maquillées, choyées, chouchoutées, etc. Et nous remarquons qu'il y a un réel professionnalisme. Rien n'est laissé au hasard. les conditions optimales sont données à chaque candidate afin qu'elle puisse être la plus belle possible au jour J, le soir où elle se rendra auprès du roi. Alors il y a une suggestion qui est assez intéressante, que je vous livre. Il semblerait que cette période de 1 an ait existé afin de s'assurer de la chasteté des prétendants, afin qu'elle ne soit pas enceinte et que le roi ne soit pas obligé d'accepter la paternité d'un enfant qui n'était pas le sien, lui tombe dessus. Ça, c'est vraiment sous réserve. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les références qui sont faites aux cosmétiques, aux aromates, au verset 12, qui signifie littéralement que ces jeunes femmes devaient faire des fumigations avec des parfums pendant des jours et des jours pour purifier leur peau. On leur mettait des onguents, différents cosmétiques, et la Perse, l'Inde et l'Arabie étaient renommées par tous les parfums aromatiques, par tous ces traitements qui pouvaient être faits à des fins hygiéniques que thérapeutiques. Au verset 9, il est question de ration. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant parce que il lui donna avec empressement les cosmétiques et les rations qui lui revenaient. Alors ça fait très militaire, hein. On imagine tout à fait la petite boîte en carton avec le corned beef. Il est question vraiment de la nourriture qui revenait à ces femmes. On prenait réellement soin d'elles et on leur donnait tout ce qu'il y avait de meilleur pour qu'elles puissent être prêtes, donc je vous le disais, le jour J. Comme l'a suggéré quelqu'un, cette longue préparation de ces jeunes femmes avant qu'elles soient prêtes souligne quelque chose. Cette préparation souligne la grande majesté du prince auquel on les destine. Pendant 1 année, ces préparatifs sont poussés à l'extrême pour que ces femmes soient belles. Et dans ce sens, chers frères et sœurs, si pour plaire à un roi terrestre, ces femmes et leur entourage devaient travailler durant tant de temps pour acquérir quelques beautés passagères, alors à combien plus forte raison, nous qui sommes destinés en tant qu'épouse du Seigneur, puisque l'Église est son épouse, il est question du repas de l'agneau, repas durant lequel l'épouse sera présente avec son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, alors à combien plus forte raison devrions-nous employer non pas 1 année, mais toute notre vie pour être prêts le jour du festin de l'agneau? À combien plus forte raison devrions-nous travailler avec l'aide du Seigneur pour lui plaire en toute occasion? Paul, dans ce sens, exhorte Timothée, son fils spirituel, ainsi, et ceux auxquels il écrit, non seulement Timothée mais les autres, aux Thessaloniciens. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, si des femmes pouvaient passer autant de temps pour des choses qui allaient durer si peu longtemps, à combien plus forte raison, je le répète, devrions-nous, parce que nous aimons notre Sauveur, parce que nous sommes son épouse, travailler par amour pour lui, à notre sainteté, avec son aide, puisque nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et bien que cela soit notre motivation aujourd'hui. Dernier point, l'œuvre providentielle de Dieu. Nous avons dit la semaine passée que une des caractéristiques principales de ce livre, eh bien, c'était de nous révéler l'action providentielle de notre Dieu. Il conduit toutes choses sagement, saintement et avec une toute puissance. Et dans ce livre, on peut dire que ces œuvres providentielles se voient comme à l'œil nu, même si, comme nous l'avons également souligné, son nom n'est pas prononcé une seule fois ou n'est pas évoqué une seule fois dans cet ouvrage. Alors, sans que la liste soit exhaustive, j'aimerais voir avec vous maintenant la providence de Dieu agissant dans 2 domaines. La grande beauté d'Esther, tout d'abord, et la bienveillance dont font preuve tous ceux qui entourent Esther ensuite. La grande beauté d'Esther. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme nous l'avons lu, un des critères de choix pour ces jeunes femmes, et le critère essentiel, à part la virginité, c'était la beauté. Seul comptait la beauté et la virginité. Et comme il est écrit, Esther était très belle. Pour information, l'historien Joseph, parce que c'était très objectif, il était juif d'origine, écrit qu'elle surpassait toutes les femmes par sa beauté. Puis certains rabbins ont dit qu'elle faisait partie des 5 femmes les plus belles de l'Ancien Testament. Je ne sais pas dans quelle mesure il pouvait faire les comparaisons, puisqu'il ne les avait pas vues, mais c'est juste pour information. Mais le texte biblique nous dit, et l'auteur biblique nous dit, que cette femme était d'une très grande beauté. Elle avait beaucoup de charme, c'est le sens de ce qui est écrit au verset 7. Mais cette beauté, ce charme n'était pas le fait d'Esther. Cela venait de la bienveillante providence de Dieu. Esther aurait pu être une femme d'une beauté ordinaire, elle aurait même peut-être pu être laide. Mais Dieu, dont les desseins sont souverains, en a décidé autrement. Sachant dans sa préscience que les critères qui prévaudraient au moment du choix de la nouvelle reine seraient entre autres ceux de la beauté, ou celui de la beauté. Et j'aimerais faire une application très concrète pour chacun de nous, surtout dans un monde où on nous présente à longueur de journée les canons de la mode. De la même façon que pour Esther, notre physique, chers frères et sœurs, nous a été donnée par Dieu. Alors nous ne faisons peut-être pas partie des canons de la beauté comme Esther à son époque, mais c'est Dieu qui nous a fait tels que nous sommes. Nous n'avons pas eu le choix, c'est clair, de la beauté naturelle ou du charme que nous avons hérité à notre naissance. Nous n'en avons pas eu davantage à propos du caractère que nous en avons reçu. Par contre, nous avons la responsabilité de ce que nous en faisons. Mais Dieu, notre Créateur, nous a fait selon son bon plaisir, selon sa volonté. Il savait tout de nous avant même notre conception et il avait déterminé les traits caractéristiques de notre vie. C'est ce que David dit au psaume 139. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Mais force nous est de constater régulièrement que nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés de la situation dans laquelle nous sommes, peut-être de notre physique, peut-être de notre intelligence. Si seulement j'avais été enfant unique, j'ai dû supporter 5, 6, 7, 8, 10 frères et sœurs. Si seulement j'étais plus belle, plus grand, plus grande, moins rond, moins maigre, plus intelligent, né dans une famille riche. Mais une grande preuve de sagesse pour le chrétien consiste à se soumettre dans toutes les circonstances de sa vie, telles qu'elles se présentent et que Dieu les a voulues, d'accepter ces circonstances, d'accepter ce qu'il est, parce que cela vient de Dieu. Et mes amis, le plan de Dieu était le meilleur plan pouvant exister. Tout ce qu'il a déterminé par avance et qui s'accomplira certainement était le meilleur plan. Alors ne nous appesantissons pas sur ce que nous aurions voulu être ou sur ce que nous voudrions être et que nous ne sommes pas. C'est de perdre du temps et c'est déshonorer Dieu. Mieux vaut reconnaître la bienveillante main de Dieu sur toutes nos circonstances personnelles et nous reposer sur cette assurance qu'il nous connaît parfaitement. Qu'il prend soin de nous, qu'il nous donne toujours ce dont nous avons besoin et que nous avons du prix à ses yeux. C'est cela qui doit être la pensée principale de nos vies plutôt que de toujours regarder chez les autres en se disant « mince, l'herbe est beaucoup plus verte que la mienne ». Par expérience, je peux vous dire ceci, c'est que les personnes les plus agréables, les plus épanouies que j'ai rencontrées sont celles qui ont accepté les circonstances de leur vie personnelle avec reconnaissance comment Dieu les a conduits. Même si elles ne correspondaient pas aux normes du monde ou peut-être à leurs désirs. On peut ne pas être beau selon le monde, intelligent selon le monde, être diplômé selon le monde, mais rayonner à la gloire de Dieu parce que l'on accepte que c'est lui qui nous a fait ainsi, qui nous a conduits comme cela jusqu'à aujourd'hui et qu'il nous aime et qu'il fera de nous quelqu'un de glorieux dans sa présence. Alors, si vous êtes dans cette situation de toujours être en train de vivre une frustration permanente, mais laissez-la et dites merci à votre Dieu pour tout ce qu'il vous a donné et ce qu'il a fait de vous. La bienveillance à l'égard d'Esther. Par trois fois, on constate dans ce texte qu'Esther gagna la bienveillance de tous au palais. Tout d'abord, c'est Hegai, le chef des eunuques, qui va lui donner la meilleure place. Ensuite, au verset 15, nous voyons que tout le palais et bienveillant à l'égard d'Esther et aime Esther. Et enfin, au verset 17, le roi lui-même est rempli de bienveillance. Et ça va même plus loin. Il aime Esther. Et quand il est dit « il aime Esther », ce n'est pas de l'amitié. Le mot hébreu qui est traduit par « aimer » signifie un lien émotionnel très fort. Mais très fort, il est tombé amoureux d'Esther. Alors à qui est-ce que Esther doit les faveurs d'Hegai et son traitement de faveur? Pourquoi bénéficie-t-elle des conseils avertis de son cousin? Pourquoi est-elle l'objet de tant de bienveillance de la part de la cour et de l'amour du roi? Elle n'a aucune prise sur les événements, aucune. Jamais elle n'aurait pu proposer que le roi choisisse une nouvelle reine comme cela fut fait. Elle n'avait aucun contrôle sur sa beauté naturelle. Il lui était impossible de programmer sa candidature à la royauté. Et bien sûr, elle n'avait aucune possibilité d'incliner le cœur du roi. Et nous voyons qu'elle ne prend même pas les éléments peut-être qu'elle aurait pu prendre pour essayer de le séduire et d'arriver à la première place. C'est Dieu et Dieu seul qui influe sur toutes ces choses. Un peu comme Joseph qui, lorsqu'il fut vendu comme esclave, devint l'esclave de Potiphar et finalement devint le maître de la maison de Potiphar. Un peu comme Joseph, jeté injustement en prison, eh bien, reçoit de la part du gardien de la prison la responsabilité de la garde des autres prisonniers, un peu comme Joseph qui finalement va arriver sur le trône d'Égypte, ou en tout cas le deuxième après le roi d'Égypte. C'est Dieu qui contrôle, qui dirige, pour sa gloire et par amour pour elle, selon son plan éternel, ce qui se passe dans sa vie. Alors peut-être que personne ne voyait à ce moment-là ce que Dieu faisait, mais certainement qu'Esther et Mardoché voyaient la main de Dieu. Et avant de conclure, j'aimerais vous exhorter, chers frères et sœurs, à apprendre, même si les autres ne le savent pas et ne le voient pas, à reconnaître la main du Seigneur dans vos vies, à voir la main du Seigneur dans toutes vos circonstances, à faire comme le psalmiste qui disait qu'il voulait repasser toutes les bénédictions et toutes les grâces de Dieu dans sa vie. Mais regardez en arrière, vous êtes découragé, vous êtes complexé, vous êtes frustré, vous avez un sentiment d'abandon, mais regardez les années passées, les épisodes de vos vies, les événements les uns après les autres. Voyez la main de Dieu, sa providence qui vous a gardé et protégé, qui a fait de vous son enfant et qui vous prépare une maison et qui va vous y conduire pas après pas. Nous venons de voir donc ce matin, dans toute la simplicité qui est la leur, un homme et une femme selon Dieu briller à sa gloire au sein d'un contexte hostile. L'amour, la fidélité, le courage, la bienveillance, l'humilité dont font preuve Esther et Mardoché sont là pour nous démontrer qu'il n'y a pas de contexte assez hostile pour nous empêcher de vivre fidèlement à la gloire de notre Dieu. Il n'y a pas de contexte assez hostile pour nous empêcher d'être des lumières au sein des ténèbres. La providence divine qui accompagne Esther et Mardoché, surtout Esther, Mardoché aussi, nous révèle finalement que celui qui nous a appelés à la gloire éternelle par l'œuvre de son Fils ne nous abandonnera jamais au sein d'un contexte difficile, mais saura faire concourir, comme le dit l'apôtre Paul, toutes choses pour sa gloire et pour notre bien. Amen. Seigneur notre Dieu, il est dit dans ta parole que tu fais grâce aux humbles et que tu résistes aux orgueilleux. Tu ne te réjouis pas dans celui qui s'appuie sur sa force. Tu ne te réjouis pas dans celui qui écrase, qui fait preuve de vanité, d'orgueil, de suffisance. Tu te réjouis, Seigneur, dans celui qui est humble, dans celui qui est souple dans ta main, dans celui qui accomplit ta volonté avec simplicité et fidélité. Éternel notre Dieu, merci d'avoir fait briller devant nous, Seigneur, ces serviteurs et servantes que furent Mardoché et Esther, imparfaits comme nous, mais Seigneur, désirant vivre à ta gloire. Seigneur, leur chemin fut difficile, certainement. Il était difficile pour Mardoché, et nous le verrons encore, Seigneur, d'être fidèle dans ce palais en tant qu'officier, surtout lorsqu'il ne pliera pas le genou devant Haman. Il était difficile pour cette jeune femme d'être arrachée à son cousin après avoir été séparée de ses parents et de devoir vivre dans cette atmosphère difficile et corrompue de ce palais. Et pourtant, éternel, et pourtant, avec fidélité, humilité, ils se sont donnés à toi. Et tu les as bénis, tu les as accompagnés. Ta bonne main était sur eux, et nous la voyons, éternel, dans ce récit et déjà dans ce chapitre. Accorde-nous, éternel, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous aussi, moments durant lesquels nous nous inquiétons, nous tournons des regards inquiets autour de nous, moments durant lesquels nous pouvons parfois nous demander si tu nous as abandonnés, de voir ta main, de la reconnaître, d'être apaisé, de regarder en arrière et de voir, Seigneur, combien tu as été fidèle jour après jour à notre égard. Car, Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants, tu les conduis pas après pas et tu les amènes dans ta maison, dans ta présence. Accorde-nous donc, éternel, de briller comme des lumières au sein de ce monde, comme il a déjà été dit. Seigneur, coûte que coûte, en sachant que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous accompagne, nous conduit, nous protège, a sa main sur nous, et qu'un jour nous serons dans sa sainte présence. Éternel notre Dieu, nous prions pour celles et ceux de notre Église qui passent par des moments d'épreuve, qui sont alités, peut-être sur un lit d'hôpital. Nous pensons à André qui sera opéré dans 2 jours, à tous ceux qui passent par des temps de difficulté, Éternel, quelles qu'elles puissent être, nous te les remettons et te supplions, Seigneur, que tu te rappelles à eux, que tu leur montres, Éternel, tes bons soins. Accorde-nous aussi, Éternel, de les entourer et qu'ils puissent voir aussi par l'amour fraternel, Seigneur, qui leur est prodigué ton amour. Ah oui, prends soin de ton Église, de notre Église et de ton Église de façon générale sur la terre. Nous regardons avec espérance le moment où nous serons dans ta présence. Nous te louons pour un si grand salut. Nous te louons parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.